Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe du vendredi. C'est pas la plus sage l'équipe du vendredi. Bonsoir. Marion, votre choix de l'actu du jour.
L'invraisemblable histoire de la dissolution racontée entre autres par Catherine Ney dans le tome 2 de ses mémoires que l'on a dévoré.
Tu le sais bien, le temps passe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, chère Catherine. Mohamed, votre story du jour.
Le magazine People Closer affirme que Éric Zemmour et sa conseillère attendent un enfant. Je vous raconte la colère du clan Zemmour ce soir.
Patrick, votre édito du jour.
L'art du compromis politique en Allemagne avec un gouvernement qui va rassembler la gauche, la droite et les écolos.
Et le regard de Catherine Ney sur l'art du compromis allemand. Mathieu est dans le 5 sur 5 ce soir.
Ouistreham, Saint-Malo et Calais, les pêcheurs bloquaient les ports français aujourd'hui, ainsi que le tunnel sous la Manche. Nous étions sur place, les reporters de C'est à vous.
Et Pierre ?
Eh bien, on ne va pas faire petit bras. On a choisi les Beatles pour Caroline Roux. Ah.
En cadeau d'anniversaire pour les 20 ans de C'est dans l'air. Bon. Eh bien, dis donc.
On est comme ça.
Moi, j'ai rien pour mon anniversaire et j'ai un peu plus de 20 ans.
Caroline, on aura Yvette Horner pour vous.
Oui, alors que...
Bah bon, oui. Moi, j'adore l'accordéon, moi.
Aussi.
Mais merci, c'est une douce, délicate attention. Pierre, Caroline Roux est notre invitée pour fêter les 20 ans de ses dernières, entourée de certains de ses experts réguliers, Roland Kayrol, Fanny Guignochet, Philippe de Sertine. Vous en faites partie également,
plus
chère Catherine. Plus du tout.
Je suis plus invitée, non.
Ah. Eh bien, vous en parlerez avec Caroline.
Non, mais moi, je ne veux rien demander.
Alors, d'autant que vous n'êtes pas invité à la table du dîner, c'est à vous, chère Catherine, ce soir. Mais peut-être qu'on peut s'arranger.
Oui, oui,
parce que la brioche garnie de Julie Chex vaut le détour. Julie Chex, qui est notre chef du vendredi,
bonsoir.
Très souvent, chef du restaurant Le Benvenuto au Beau-de-Provence.
Tout
une
à
brioche
fait.
Ce soir.
Oui, tout à fait. Ce soir, nous allons faire une brioche garnie au pruneau d'Agen IGP, indication géographique protégée depuis 2002.
Merci beaucoup, chère Julie. À tout à l'heure. L'édito de Patrick Cohen. Dans 10 jours, l'Allemagne va changer de visage. Angela Merkel laissera la place au social-démocrate Olaf Scholz et à un gouvernement tripartite inédit depuis la guerre.
La coalition feu tricolore, vert-jaune-rouge, avec une direction centre-gauche, le rouge du SPD, 25% des voix aux élections, et des partenaires de droite, le jaune des libéraux, 11%, et de gauche, le vert écolo, 14%. On se demandait comment ces trois-là allaient pouvoir s'entendre. Eh bien, on a la réponse après 2 mois de négociations au travers d'un contrat de gouvernement de 177 pages.
Que vous avez lu, Patrick ?
Dont j'ai lu l'essentiel grâce à la traduction de la revue numérique Le Grand Continent. Et c'est une lecture fascinante. Vue de France, c'est la 4e dimension. L'art du compromis porté à son sommet. Quelques rappels. La gauche avait fait campagne pour la hausse des salaires et pour l'impôt sur la fortune. Les verts pour la sortie du charbon, le développement des éoliennes et la limitation de vitesse sur autoroute, la droite pour la rigueur budgétaire. Tous ces débats ont animé la campagne, mais après s'être affrontés, ils sont parvenus à s'entendre, à concéder, à faire cause commune. Et donc, le salaire minimum va augmenter de 25% au 1er janvier, de 9,60 € à 12 euros brut de l'heure. En France, c'est 10,50 €. Mais l'impôt sur la fortune supprimé il y a 25 ans ne sera pas rétabli. Les libéraux étaient contre. Et le gouvernement ne laissera pas filer les déficits. Les comptes publics seront ramenés à l'équilibre en 2023. De même, il n'y aura toujours pas de vitesse limite sur environ la moitié du réseau autoroutier allemand. On est au pays de la bagnole. Mais le cannabis, ah bah si, l'industrie allemande, l'automobile allemande, de la voiture.
C'est mon bagnole
si
vous voulez. Qui me faisait réagir.
Mais le cannabis sera légalisé, c'était le vœu des Verts. Il sera vendu dans les magasins agréés pour en contrôler la qualité. Et pour le climat, la sortie du charbon sera accélérée. Le contrat prévoit de réserver aux éoliennes 2% du territoire allemand. 2%, j'ai fait le calcul, ça fait plus de 7000 km², soit la surface d'un grand département français comme la Loire-Atlantique ou 70 fois Paris.
Et rien sur l'immigration.
Si, il y a très long développement en faveur de l'immigration. L'Allemagne est conçue comme une société d'immigration diversifiée qui doit attirer la main-d'œuvre qualifiée, étendre le regroupement familial, une société qui doit accueillir et intégrer avec des cours d'intégration dès le premier jour pour toute personne arrivant en Allemagne. L'Europe est une référence permanente de ce programme qui plaide pour une souveraineté stratégique européenne. C'est Emmanuel Macron qui avait utilisé le terme pour un État fédéral et pour l'élargissement de l'Union aux pays des Balkans et à terme à l'Ukraine et à la Géorgie. La diplomatie allemande sera d'ailleurs pour la première fois incarnée par une femme, Annalena Baerbock, qui était la candidate verte à la chancellerie.
Une alliance imaginable ou inimaginable en France ?
Écoutez, en France, le candidat ou le parti qui fait 25% des voix a les moyens de gouverner seul, hein, question de mode de scrutin, et le paysage politique n'a plus rien à voir. Les libéraux en France ont quasiment disparu. Tous les candidats, ou presque, réclament davantage d'État. Enfin, cette culture du compromis nous est devenue complètement exotique. Je cite à nouveau le préambule du contrat. L'Allemagne est diverse. Travailler ensemble alors que nous sommes si différents sera un signal encourageant pour la société. Nous voulons promouvoir une culture du respect, respect des opinions différentes.
Catherine, mais avant d'évoquer vos souvenirs, ce modèle allemand-là, il vous fait envie ? Vous vous dites...
Oui, il me fait envie. Par exemple, je trouve formidable cette coalition où on se met d'accord pendant 2 mois. Madame Thatcher, elle avait mis 5 mois la dernière fois parce qu'elle n'arrivait pas. Merkel, qu'est-ce que j'ai dit ?
Thatcher.
Excusez-moi, ça va très mal.
5 mois.
Voilà, 5 mois. Donc là, je trouve que c'est formidable de pouvoir discuter, faire des concessions et avoir un plan à appliquer pendant toute la législature. Et alors qu'en France, vous voyez, un président est élu, forme un gouvernement, fait une vague coalition ou pas, et puis tout de suite, on lui dit, au bout de 100 jours, vous n'avez pas de résultat. Alors que moi, je pense qu'il faudrait prendre un temps.
Avant d'agir.
Mais oui, regardez, le président américain, il est élu en novembre, il prend ses fonctions en janvier. Nous, c'est tout de suite. Et puis, si au bout de 100 jours, il n'y a pas de résultat, déjà, les syndicats...
Et plus personne en France ne fait référence au programme présidentiel ou aux promesses.
Voilà. Donc il y a beaucoup de choses.
Alors qu'en Allemagne, c'est 177 pages, c'est une référence importante.
C'est une bible, en quelque sorte.
C'est-à-dire que chaque partenaire de la coalition peut le brandir pour dire, on nous a concédé ça, il faut le faire.
Et alors, acter que les libéraux actent le fait qu'on supprime le charbon d'ici 2030, ils disent dans l'idéal.
Idéalement.
Oui, ça... Donc peut-être qu'on attendra un peu plus. Mais c'est quand même très intéressant. Sur les voitures, les Verts, évidemment, voulaient réduire la vitesse. Mais est-ce qu'on achète une Porsche pour rouler à 90 à l'heure sur une route ? Donc sur les autoroutes, on continue. Voilà. Donc il y a quand même des choses intelligentes dans ce où on se comprend les uns les autres. Et je trouve que le patronat... les libéraux, ceux qui ont fait des grands pas vers les Verts, et peut-être qu'on arrivera, peut-être, parce qu'il n'y aura plus de centrale nucléaire l'an prochain, il n'y en aura plus. Donc, mais vous savez, les éoliennes, le charbon, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que comme on va manquer, le nouveau chancelier a annoncé qu'il y aurait des centrales au gaz, ce qui n'ont pas... Au point de vue carbone, c'est pas nul, mais les Verts ont accepté parce qu'ils disent qu'elles feront la jonction avec l'hydrogène quand on en produira. Vous voyez, donc on s'arrange et les Verts sont quand même prêts à quelques concessions.
Tu le sais bien, le temps passe. C'est le voyage que vous nous proposez au cœur des années Chirac, Sarkozy et Hollande, avec tous ceux qui ont fait la politique de la France pendant ces 22 années. Mais vous avez choisi de commencer vos souvenirs avec une femme qui est restée 12 ans à l'Élysée, Bernadette Chirac. Et le jour de la cérémonie d'investiture, le 17 mai 1995, le jour de l'arrivée du couple Chirac à l'Élysée, la journée de Bernadette commence mal. Une cheville tordue, elle est moquée dans certaines rédactions. Et c'était un symbole.
Oui, c'était un symbole parce que vous savez, ce jour-là, tout le monde est aux aguets, toutes les télévisions. Et puis, Bernadette est arrivée sur le tapis rouge. Et moi, je ne l'avais pas vue depuis longtemps. Et quand je l'ai vue, elle avait cet ensemble... en soie bleu ciel, et je me suis dit, c'est vrai qu'elle a un peu pris du volume. Bon, et donc, elle avançait précautionneusement, on l'a regardée, puis tchouk, elle se tord la cheville. Et donc, tout le monde a un peu ri, parce que, bon. Et puis sa fille qui voyait ça y a vu comme un message, parce que le Figaro magazine avait dit, avec l'élection de Jacques Chirac, la France prend un coup de jeune. Sa fille dit, là, vous voyez, la cheville qui se tord, et puis maman a beaucoup forci. Et elle a décidé de...
D'effacer
complètement sa mère.
De la photo.
Voilà.
Parce qu'elle donnera un coup de vieux, justement, voilà, au président Chirac. Et on n'hésitait pas à l'humilier pour ça. Vous racontez comment, lors de la garden party du 14 juillet 1995, Jacques Pilangou, la com de Mitterrand, qui était passé dans le clan Chirac, a fait enlever son couvert au dernier moment pour que surtout elle n'apparaisse pas à table à côté de son mari.
Oui, parce qu'il réunissait des jeunes, de représentants de toute la France. Et il s'est dit, s'il y a le couple, ça fera papy et mamie avec les jeunes. Donc il fallait juste le président, sa fille. Et voilà.
Elle l'avait vécu comme une humiliation, ça.
Oh, mais terrible. Elle a énormément souffert. Et je l'avais vu en juillet, et je lui avais dit, est-ce que ça vous intéresserait de faire une interview, parce que je faisais des interviews de femmes pendant tout le mois d'août, et comment ça m'intéresse, venez me voir à l'Élysée. J'arrive à l'Élysée et je demande Madame Chirac, et on m'amène chez Claude. Alors je suis arrivée en retard et j'ai dit à Madame Chirac, écoutez, je suis désolée, Elle me dit, ah bon, mais vous ne saviez pas que le président était veuf. Donc elle avait beaucoup d'humour.
Et elle avait déjà intégré et très vite compris que vous voulez vraiment la...
Oui, mais pendant notre entretien qui a duré à peu près une heure, où elle me racontait d'ailleurs très bien, elle connaissait très bien le terrain et elle me disait qu'elle pouvait rapporter, être très utile à son mari, parce qu'elle était plus souvent en campagne que lui, finalement, en s'arrêtant en Corrèze.
Le téléphone sonnait sans arrêt.
Il l'a appelée trois fois. Elle lui disait, mais Jacques, mais je suis en réunion, tchac, et puis trois fois de suite. Et voilà. Et puis à la fois, elle disait, voyez, il ne peut pas se passer de moi. Et à la fois, on la sentait très heureuse pour dire, à la fois, voilà, c'était un couple. Vous savez, les Chirac, entre le père, la fille et la mère, vous voyez, Bernadette qui disait du mal de sa fille, qui disait du mal de son mari, si j'ai abondé dans son sens, elle m'en voulait. Donc c'était un trio très compliqué.
Les confidences de Bernadette Chirac, vous ne les obteniez pas qu'à l'Élysée, mais aussi chez le coiffeur. Oui. Le même que celui de Bernadette Chirac, à côté de l'Assemblée nationale. Et vous aimiez ces rencontres, en tout cas dans les bonjour de Bernadette, parce qu'il y avait des jours où elle vous répondait à peine, elle est assez cyclotimique.
Assez lunatique.
Mais c'est au pied de l'escalier qui menait au bac à shampoing qu'un jour, Bernadette Chirac s'est confiée sur les infidélités de son mari. Jacques me trompe. Toutes ces femmes qui ont couru après mon mari, je les connais toutes. Et vous savez ce qui me fait plaisir? Quand je les vois aujourd'hui, elles sont devenues aussi laides que moi. La dérision, mais pour masquer le chagrin.
Oui, parce qu'elle a beaucoup souffert, mais elle me disait, je les connais toutes, et c'est vrai. Et voilà. Mais moi, depuis que je la connais, elle me disait toujours, Jacques me trompe.
Jacques me trompe, oui. Bernadette Chirac va tenir sa revanche en occupant le terrain, la Corrèze notamment, où elle est élue locale et où elle invite Hillary Clinton en mai 1998.
Première étape, premières amabilités. Bernadette, conseillère générale, fait les honneurs de la maison et Hillary se passionne pour le tracé des autoroutes locales. À Corrèze, les enfants ont appris la chanson en anglais. Hillary ne parle pas le français. Les maternelles n'existent pas aux États-Unis, c'est donc un bon exemple et tout le monde apprécie. Je suis très heureuse ici. Madame Chirac me parlait de la Corrèze depuis des années et je suis enchantée de voir les choses par moi-même.
Le message était clair, deux femmes bafouées, mais solidaires.
Oui, puis surtout, lorsque Madame Clinton est arrivée, c'était en avril, et en janvier, il y avait eu l'affaire Monica Lewinsky. Donc il y avait eu quand même l'humiliation planétaire. Donc c'était une chose, une sorte de sororité, elle l'avait invitée. Et elle était venue...
Mais c'était pas rien en Corrèze. Il a fallu couper des arbres pour
que les deux limousines blindées passent. Il a fallu faire des toilettes dans l'aéroport de Limoges, parce que c'était la première fois qu'il y avait une liaison Washington-Limoges, d'ailleurs qui n'a servi qu'une fois, il faut bien dire. Et donc, après, elle s'est promenée au milieu des boutons d'or. Et d'ailleurs, elle avait choisi un tailleur couleur bouton d'or, assorti aux prairies. On voyait la professionnelle, quoi, voilà. Mais toutes les deux, hein.
Non, j'ai un petit souvenir personnel à propos de l'affaire Lewinsky et de l'affaire Clinton. J'ai fait une émission avec Bernadette Chirac en pleine affaire Lewinsky. C'était un journal inattendu en province pour RTL. Et on était dans les rebondissements de l'affaire Clinton. Et elle est venue me voir. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe? Avec une gourmandise, elle voulait tous les détails. Elle se réjouissait de cette histoire.
Oui, elle disait, je ne suis pas seule. Oui.
Voilà.
Je ne suis pas toute seule.
Alors, c'est aussi chez le coiffeur que vous entendez Bernadette commenter le désastre de la dissolution qui n'aurait jamais eu lieu, selon elle, si Jacques Chirac avait écouté ses conseils et pris Philippe Séguin comme Premier ministre, la dissolution de l'Assemblée nationale que Jacques Chirac annonce le 21 avril 1997.
Mes chers compatriotes, Après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Alors vous racontez cette anecdote insensée, Christine Albanel, qui a rédigé le texte de l'annonce avec Jean-Pierre Denis, le fait lire à Chirac, qui lui dit « Tu vois, je lis votre papier et je comprends toujours pas pourquoi je dissous. » Et elle de lui répondre « C'est tout le problème, nous non plus. » La dissolution, vous dites que c'est une grue pour casser une noix, en l'occurrence Alain Juppé qui était Premier ministre.
Mais oui, parce que les Français, Alain Juppé était vraiment tombé très bas dans les sondages, il était très impopulaire depuis sa réforme ratée des régimes spéciaux, vous vous souvenez de la grève de décembre, enfin bon. Et puis quand même, c'était quelqu'un qui est sûrement très intelligent, mais qui avait le chic pour se faire des ennemis parce qu'il était pète-sec, un caractère difficile. C'était une évidence qu'il fallait changer de Premier ministre. Seulement, Jacques Chirac ne savait pas par qui le remplacer. Séguin, il n'en était pas question parce qu'il en avait peur, parce que c'était quelqu'un de cyclotimique, qui piquait des colères folles, il en avait vraiment peur. Puis il ne voyait pas qui, dans le magasin, il n'y avait personne d'autre. Il y en avait qu'un qui était candidat, mais dont il ne voulait pas, c'était Nicolas Sarkozy.
C'était Sarkozy, dont il disait, il avait cette phrase très drôle, s'il devient Premier ministre, les gens vont se demander qui est le grand gars derrière lui.
Au bout de trois mois, oui.
Et pourtant, ils y croyaient tous à cette dissolution, Chirac, Juppé, mais aussi Dominique de Villepin, qui vous dit, au lendemain du 21, on les encule tous, les baladuriens, les socialistes, au lieu de quoi s'en suivent 5 années de cohabitation.
Oui. Parce qu'il parlait comme ça,
ce
grand poète. Ah oui, il pouvait être très grossier. Et ça, il n'hésitait pas à avoir un langage un peu ordurier.
Vous vous élevez un sourcil quand même?
Mais non, on a été habitués. Il traitait les députés de connards. Enfin voilà, c'était drôle. D'ailleurs, c'était ce jour-là, je me souviens, le lendemain de la dissolution, on avait déjeuné avec lui. Et c'était assez surréaliste parce qu'il était très content. Il planait, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu une réunion de tous les députés qu'on renvoyait à la guerre et qui étaient persuadés de revenir. Moi, je me souviens, ils étaient persuadés. Et les premiers sondages, Jean-Louis Debré, le ministre de l'Intérieur, arrivait.
Oui, assurait Jacques Chirac c'était bon.
Au début. Puis après, ça a tourné. Et quand il disait, les renseignements généraux me disent, et Chirac disait, oh, mais ils ont du pif. Oui. Ils ont eu tellement de pif que voilà.
Il y a eu 50 cohabitations. 5 ans de Jospin. Le temps pour Jacques Chirac de créer une réelle complicité avec certains ministres du gouvernement, Pierre Moscovici, qui vous confie beaucoup d'anecdotes absolument savoureuses, qui raconte à quel point le président le faisait rire, à propos notamment d'une directive européenne sur le chocolat. Monsieur le ministre, vous savez que le chocolat, c'est bon pour le moral et pour le sexe. Et Chirac de dire, moi, à mon âge, c'est surtout pour le moral. Oui. Mais vous, vous êtes encore jeune. Il était épaté, Moscovici, de l'appétit de Chirac. Hein.
Ah oui, parce qu'un jour... Il racontait qu'il partait, je ne sais plus dans quel pays de l'Est.
En Macédoine.
En Macédoine, voilà. Et puis, il voit dans l'avion qu'on porte un petit déjeuner pantagruélique à Jacques Chirac. Il lui dit, mais écoutez, on va déjeuner à 13h. Et Jacques Chirac lui dit, d'ailleurs, Moscovici imite très, très bien Jacques Chirac. Il dit, mais on va nous servir une moussaka dégueulasse, des choses...
un chiche kebab dégueulasse.
Donc, il faut prendre...
De l'avance.
Il prenait de l'avance. Et puis, arrivé là-bas, lors du déjeuner, Moscovici m'a dit, il a tout repris en double quoi et tout. Et donc, c'est vrai, on se disait, mais il a un estomac en zinc. Je ne sais pas comment il peut avaler autant de choses. D'ailleurs, je pense qu'il s'est beaucoup abîmé la santé en mangeant et en buvant des bières. Parce que qui n'a pas vu Jacques Chirac boire une bière...
Ne l'a pas vu.
Ne l'a pas vu parce qu'on avait l'impression que le gosier faisait un mouvement comme ça, vous voyez. C'était très... Voilà, il en buvait...
Beaucoup.
Voilà.
Les 35 heures font toujours débat chez nous et on les porte souvent au passif, et la plupart du temps au passif, si j'ose dire, du gouvernement Jospin, ceux qui sont contre, et en particulier au bilan de Martine Aubry. Mais vous rappelez que le débat s'est d'abord ouvert à droite à l'initiative de Gilles de Robien et finalement, rien ne serait peut-être arrivé si Jacques Chirac n'avait pas visité en juillet 1995 l'usine de fabrication des brioches Pasquier.
Il a fait chapeau bas aujourd'hui devant l'expérience pilote et fructueuse réalisée par la briocherie Pasquier près de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Quand les autres licencient, lui, il embauche. 221 personnes ont ainsi intégré l'entreprise en moins de 6 mois. La recette est simple, réduction de 15% du temps de travail des salariés, baisse de 2 à 3% de leur salaire et allègement substantiel des charges patronales par l'État à ces entreprises méritantes.
L'essentiel aujourd'hui, c'est certes d'améliorer la situation de ceux qui travaillent, mais c'est surtout de faire en sorte de donner du travail à ceux qui n'en ont pas.
Donc Jacques Chirac aurait eu ce jour-là une révélation ?
Non, il y avait déjà Gilles de Robien, oui, et l'économiste Larroute Turou qui faisaient une campagne en France pour dire que le partage du travail était la solution. Mais ce qu'il proposait, c'était des choses. Il proposait, c'était facultatif parce que le parti.
Oui, absolument.
Voilà, donc c'était le volontariat, et donc les entreprises qui ne demandaient rien. Il y avait certaines qui ont pu le faire, mais c'était, ça avait commencé doucement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que. Et ça coûtait cher, hein, parce que c'était des baisses de charges assez conséquentes pendant plusieurs années, pendant presque 7 ans d'ailleurs. Et la CFDT, qui est très très pour les 35 heures, finalement s'en accommodait. Et pour la campagne suivante, après la dissolution, la CFDT ne le demandait plus. Et c'est Lionel Jospin qui les a ramenés. Et pourquoi a-t-il voulu faire les 35 heures ? Parce que Lionel Jospin est arrivé au pouvoir en se disant « Moi, je vais avoir 5 ans pour moi et je veux être le leader socialiste qui va marquer son temps » parce qu'il estimait que le grand Léon Blum, qui est resté un an, hein, on fait toute une histoire du... Je perds mon peigne, je vais...
Prenez votre temps, merci.
Le grand Léon Blum, qui est resté un an, et c'est vrai qu'il avait fait les 40 heures payées 48 heures, d'ailleurs ça n'a duré qu'un an, et au bout d'un an, les dépenses étaient telles, et qui n'avaient rien à voir avec le 80, c'était beaucoup moins, on l'a renvoyé, donc ça n'a duré qu'un an. Et Jospin, il a été tout de suite déçu de la façon dont Mitterrand gouvernait, parce qu'il d'avoir lâché trop vite le fameux 110 propositions. Ouais. Et il avait fait, lui, les 39 heures payées 40. Et il trouvait que c'était mesquin. Et donc, il s'est dit, moi, je vais faire un grand... Voilà, je vais être le grand leader et je vais imposer les 35 heures. Donc, il a grugé, il l'a imposé à Martine Aubry, qui n'en voulait pas, et qui, après, est devenu la passionnariat des 35 heures, qui ne voulait pas négocier avec les patrons, qui a été épouvantable avec eux et qui a commis quand même cette faute qui a fait que ça a beaucoup nuit à l'industrie française, à l'emploi et tout ça.
Même si l'idée originale était de... Dominique Strauss-Kahn, c'est lui qui l'avait mis sur la table.
Attendez. Il l'a mis pour les élections législatives.
Oui.
Quand Chirac... Pour les élections présidentielles, pardon, 95. Mmh. Parce qu'il était sûr que Jospin ne serait pas élu. On savait très bien que la gauche, après 15 ans de Mitterrand, elle n'en voudrait plus. Donc il s'est dit, si on veut... Il l'avait dit, c'était d'une manière assez cynique, qu'il avait dit à Jospin... Si on veut ramasser de plus de voix de gauche, il faut faire ça. Les banderoles, 35 heures, ça, bon, ça paye. Et donc, Jospin n'a pas été élu. Et après, pour le programme législatif qui a amené Jospin au truc, il n'était plus du tout pour. Oui. Et lorsque Jospin lui dit « griffonne-moi vite », lui, il voulait faire 700 000 emplois jeunes. Mais vous vous souvenez, il y a eu une réunion à Cergy des socialistes où il y avait à la fois Emmanueli qui disait les 35 heures parce qu'on aura la gauche avec nous et au contraire Strauss-Kahn qui disait non, les 35 heures ça va nuire à la compétitivité ou pas le faire. Et là Jospin a tranché, il a dit Henri tu as raison politiquement, Dominique tu as raison économiquement. Mmh. Et Jospin c'était toujours la politique qui l'emportait sur l'économie.
Vous racontez Catherine le surgissement de Jean-Marie Le Pen le 13 février 84, c'est la date de son premier passage à l'heure de vérité, émission événement à laquelle vous assistez.
Oui.
Je l'ai appris dans ce livre. Et vous croisez...
C'était pas une cachotterie jusque-là.
C'était pas une cachotterie, je ne savais pas. Et où vous croisez de loin, mais Alain Duhamel vous raconte ça, une jeune fille de 16 ans qui est assise au premier rang, et elle est assise à côté d'Alain Duhamel, qui est vibrante, trépignante, qui tape du pied de réprobation quand on attaque son père, car il s'agit, vous l'avez compris, de Marine Le Pen. On va voir un extrait d'une heure de vérité de l'année d'après, d'octobre 85, où sa fille est toujours là.
Monsieur Le Pen, depuis plusieurs mois, vous essayez de ressembler à un homme politique sérieux, responsable, normal.
Vous êtes méprisant pour me dire ça.
Normal, pas raciste.
Vous n'êtes pas professeur de morale.
Ce soir, j'ai l'impression que simplement que le naturel est revenu au galop. Oui. Je ne parle pas de vos propositions, enfin, si j'ose dire, sur l'immigration.
On la voit réagir, vibrante, hein, dites-vous, auprès de son...
Là, c'était la première fois où elle avait 14 ans. Hein. Ouais. Alors, Alain Duhamel l'a vu, cette jeune fille, ne savait pas qu'elle s'appelait Marine, parce que personne ne la connaissait. Et il disait qu'il y avait à l'époque Pierrette, qui était... et les trois filles, quoi. Voilà. Et la seule qui était la plus... qui vibrait quand on attaquait son père, on lui disait des choses qui ne lui plaisaient pas, c'était Marine. Et on sentait... Mais là, vous voyez, Pierrette est déjà partie. Elle n'était plus là parce que elle a quitté le logis familial. Peut-être qu'elle en avait... C'est peut-être pas facile de vivre avec Le Pen, les attentats, les critiques et tout ça. En tous les cas, elle a disparu pendant 10 ans. Et ça a été quelque chose de très dur à vivre pour sa fille, à laquelle elle n'a donné aucun signe pendant toutes ces années. C'est fou de faire des choses comme ça.
Jean-Marie Le Pen, que vous allez ensuite interviewer dans son repère de Montretout, ce qui vous frappe, c'est son aplomb.
Ben oui, parce que je lui disais, parce qu'évidemment, quand on me disait « vous êtes antisémite », il dit « mais absolument pas ». Et je lui dis « écoutez, j'étais à un meeting pour les européennes, et c'est là quand même la première fois que dans un meeting, j'entends quelqu'un derrière moi dire « mort aux Juifs, mort Simone Veil », je veux dire Anne Sinclair, tout le monde y passait. Moi, je disais « mais enfin, on le fait taire ou pas ?» Et je lui dis « personne n'est venu ». Et il me dit « mais vous savez, ça doit être un provocateur, peut-être un policier ». Et si mon service d'ordre était venu, les gens, le lendemain, le journal Le Matin et Libération auraient titré « Les nervis de Le Pen empêchent un démocrate de s'exprimer ». Et là, je veux dire, j'avais éclaté de rire parce que je me suis dit « mais quel aplomb, quoi ». Il était enfin...
Vous parlez évidemment de Nicolas Sarkozy, pour lequel vous gardez un très grand respect. Il demeure à vos yeux un personnage hors norme, doté de qualités exceptionnelles qui vous ont toujours impressionné, mais aussi de défauts qui vous ont navré. Son inaptitude à maîtriser le verbe et son comportement. Nicolas Sarkozy, cet homme qui a mené pendant 2 ans une campagne, malgré ce que vous appelez l'épreuve Cécilia, qu'il évoque à la télévision, on est en 2005.
Comme des millions de familles, la mienne a connu des difficultés. Ces difficultés, nous sommes en train de les surmonter. Cécilia compte beaucoup pour moi, chacun le sait. Je crois que la réciproque est également vraie. Mais je ne pense pas que cela mérite qu'on dise des choses, la plupart du temps d'ailleurs, inexactes, qui lui manquent beaucoup de respect, qui la font souffrir.
Avec le recul, vous vous demandez encore comment il a pu tenir le choc, Nicolas Sarkozy ?
Oui, parce que mener à la fois cette campagne et en essayant de retenir Cécilia qui voulait partir, quoi. Je veux dire, voilà, ça arrive.
Était
amoureuse d'un autre homme. Et donc, il était prêt à tout accepter, y compris quand elle est revenue avant vraiment de repartir. Et il avait accepté de se couper de tous ses amis qu'il ne voyait plus. Les fatwas de Cécilia devenaient sa règle précise. Donc ça a été sûrement très très dur. Et on voyait, d'ailleurs, Claude Guéant disait que pendant la campagne, il n'a pas donné toute sa mesure, il ne dormait pas. Et d'ailleurs, Pierre Charron et Laurent Solim disaient même, on a cru qu'il allait abandonner parce qu'il ne dormait plus, quoi. Ça a été une épreuve tragique pour lui.
Carla Bruni-Sarkozy, plus tard, entre dans la vie du président et elle a charmé la reine à ce point, la reine d'Angleterre, lors d'un voyage officiel que vous racontez, que la reine elle-même s'est comportée d'une façon assez surréaliste et très peu royale.
Mais c'est-à-dire, quand elle les a accueillis dans son château, elle les a amenés visiter sa chambre et elle était allée dans la salle de bain, elle regardait les robinets, si l'eau chaude coulait bien, si l'eau froide coulait bien. Donc ça les avait, voilà, c'est une scène qu'ils n'ont pas oubliée, oui.
Un grand souvenir avec la reine qui vérifiait que l'eau coule bien, qu'elle est bien chaude, qu'elle est bien froide, qu'elle est bien tienne. C'est vrai que c'est assez extraordinaire.
Celui que vous n'épargnez pas, c'est François Hollande, ce président qui voulait être si normal que l'année de son élection, il va à Brégançon en train pour ne pas emprunter l'avion présidentiel.
Presque comme un vacancier ordinaire, le chef de l'État arrive à la Gardière avec sa compagne Valérie Trierweiler. Au menu des vacances présidentielles, du repos.
Ce sont des vacances, comme je l'ai dit, normales mais pas ordinaires.
En fait, vous le connaissez depuis très longtemps, puisqu'il avait une longue carrière déjà à la tête du Parti Socialiste et dans diverses positions, mais vous ne l'avez jamais imaginé dans les habits du président.
Non, d'ailleurs, ses amis non plus. Il faut bien dire ce qu'il est, quoi. Il a eu une chance parce que, voilà, il y a eu un trou de souris, même pas un trou, et il est, parce que après la désertion forcée de SK.
Vous avez une phrase vachement bien, je trouve. Vous dites, c'est l'histoire d'un anti-héros à qui il est arrivé des choses extraordinaires.
Mais oui, Mais oui, c'est ça.
C'est vraiment bien, ça.
Comment ?
C'est vraiment bien.
Non, mais je veux dire, là, sa normalitude. Alors, il a continué à vivre chez lui, vous voyez, dans le 15e. Mmh. D'ailleurs, il embêtait tout le quartier. Parce que, voilà.
Et c'était derrière
Canal,
je me
souviens. Et là, je trouve, accepter de se faire, vous voyez, pour le... se faire photographier un samedi matin, à l'heure où les gens font ses cours, chez le boucher, faisant la queue chez le boucher, en ressortir avec un sac en plastique, aller prendre de l'argent, non, aller chez le boucher, tout ça. Mais ça ne fait pas rêver, ce n'était pas un chef d'État, vous voyez. Et il a, comme ça, moi, il a désacralisé la fonction, d'une certaine manière, en voulant jouer. Parce qu'il avait théorisé. Il avait dit, on peut pas, faut pas être un héros quand on veut être président. Il faut ressembler à son voisin de palier. D'ailleurs, il avait, un jour où Poutine était à Paris, il avait été, c'était la fête des voisins dans son immeuble. Il avait passé une tête à la tête des voisins. Les gens, les voisins, c'était là, quoi. Vous voyez, pour faire normal. Et donc, voilà, moi je disais, il est...
C'est vrai que comment... passer une tête à la fête des voisins, oui, c'est assez extraordinaire. Voilà.
Et donc, quand Bernadette Chirac a dit, il n'a pas l'envergure, bon, moi j'aime beaucoup François Hollande, et c'est peut-être quelqu'un avec qui on a plaisir à dîner aujourd'hui. Vous voyez, peut-être de tous les anciens présidents, c'est parce qu'il est drôle. Mais moi, c'est vrai que je le connaissais comme un commentateur. Et quand on le voyait comme journaliste, il commentait l'actualité avec beaucoup de talent. D'ailleurs, il disait, j'ai fourni les journalistes, ouais, les gens, tout ça, on l'appelait pour avoir...
Il y en a un autre que vous avez connu alors qu'il était encore dans les coulisses du pouvoir, c'était Emmanuel Macron, et lui est devenu président en 2017. Oui. Votre livre s'arrête en 2017. Mais vous aviez entrevu son destin présidentiel à Emmanuel Macron ?
Ah, mais pas du tout, pas du tout. Très vite, on s'est aperçu. D'ailleurs, j'ai senti qu'il se passait des choses à l'énervement de Manuel Valls quand on allait le voir et qu'il ne le supportait plus. Mais finalement, quand François Hollande dit « il m'a trahi », il n'a pas trahi. Il a vu que François Hollande ne pourrait pas se représenter, qu'il n'y avait pas le niveau.
Il a saisi une opportunité.
Voilà.
Et aujourd'hui, vous le voyez favori pour être réélu ?
Bah, écoutez, les sondages ne lui sont pas défavorables. Mais je ne vois rien du tout. Hein.
oui, non, je vous demande de jouer les Madame Irma.
Non, mais je ne sais pas, non. Voilà.
On continue à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouabsi. Ah.
Bonsoir,
Mohamed.
Bonsoir à toutes et à tous.
C'est une info révélée par le magazine Closer ce matin. Éric Zemmour et sa conseillère la plus proche attendraient un heureux événement.
Voici la une que tout le monde évoque aujourd'hui, la une du magazine People. Closer qui annonce que Sarah Knafo, la conseillère d'Éric Zemmour, serait enceinte du presque candidat à l'élection présidentielle. Un article qui a provoqué la colère du camp du polémiste.
C'est une violation manifeste de la vie privée. Éric Zemmour n'a jamais mis en avant sa vie privée. Chaque fois qu'on a présenté sa famille, ses enfants, j'ai fait condamner les journaux qui se permettaient de faire cela. Donc c'est une violation de la vie privée des plus crapoteuses. C'est fait uniquement pour gagner de l'argent et vendre du papier. Ça n'a aucune espèce d'intérêt public. Et c'est donc pour cela que la jurisprudence est sauvage à l'égard de ce type de publication.
Hier déjà, l'avocat de Sarah Knafo avait assigné le magazine pour obtenir en urgence l'interdiction du numéro, une demande jugée irrecevable par le tribunal. Les avocats du polémiste d'extrême droite ont engagé une action en justice lundi ou mardi. Une assignation de violation de la vie privée sera déposée par les conseils d'Éric Zemmour. Chez Closer, on estime que les deux protagonistes sont deux personnalités publiques et que l'article a un but informatif.
Depuis le début de sa pré-campagne présidentielle, il s'appuie sur des valeurs très conservatrices. Il prône un modèle familial extrêmement traditionnel. Et finalement, on s'aperçoit à la lumière de notre couverture qu'il y a un véritable décalage entre les idées que peut prôner Éric Zemmour dans ses discours ou ses prises de parole et l'homme qu'il est finalement dans sa vie. Donc voilà, à notre sens, c'est une véritable information plus qu'une révélation sur sa vie privée.
En 2014, Closer avait déjà révélé la liaison entre le président de la République François Hollande et Julie Gayet. L'actrice avait porté plainte, mais pas le président de la République. Aujourd'hui, pour Éric Zemmour, l'article du magazine People intervient au cœur d'une séquence difficile. Le polémiste baisse dans les sondages. Il est désormais donné à 12% selon plusieurs instituts. Aujourd'hui, sa déambulation prévue à Marseille n'a duré qu'une quinzaine de minutes. Le futur candidat avait prévu de s'exprimer à Notre-Dame-de-la-Garde. Une demande rejeté par le diocèse de la cité phocéenne. Mercredi soir à Genève, en Suisse, sa visite avait provoqué la colère de la maire de la ville. Elle avait refusé de louer une salle municipale aux polémistes. Le maire de Londres avait adopté la même attitude. Un millier de personnes étaient dans les rues en Suisse avant-hier soir pour contester la venue de Éric Zemmour. Catherine Ney,
oui,
est-ce que cette une de Closer, c'est une information politique publique ou bien c'est une information qui relève de l'ordre de la vie privée?
Les deux. Quand on fait en campagne, écoutez, lorsqu'il va se baigner avec sa conseillère. Bon, s'ils avaient nagé côte à côte et pas rapproché, on aurait dit il se baigne avec sa conseillère et ils repartent. Bon, donc il a tout fait pour que on sache qu'il y avait une liaison. Bon, là, certains notent qu'elle a pris du poids. Alors peut-être que c'est la fatigue de la campagne parce qu'elle n'a pas confirmé ou infirmé. Ou alors
elle n'a pas démenti. Ça.
Elle n'a pas démenti. Mais voilà. Donc.
Mais maintenant, la frontière entre la vie privée et la vie.
Écoutez, moi, je crois que.
Responsable politique, elle est. Inexistante.
Elle est inexistante, il n'y a plus de secret.
Certains jouent même avec.
Beaucoup jouent avec, mais je ne sais pas s'il joue avec, mais on va bien voir. Si elle est vraiment enceinte, dans un mois, quand il sera candidat, ça se verra. Donc, s'il le cache.
Sa campagne cale un peu, le rappelait Mohamed. A priori, ses déclarations devant le Bataclan,
Il a fait quelques fautes, oui.
Oui, il a fait quelques fautes, il les paye.
Sans doute, et puis il y a une overdose, vous voyez. On est passé de... Moi, je trouve que vraiment, le CSA qui veut lui couper la parole, qui dit qu'il ne faut plus qu'il parle, et on n'a jamais autant attendu, mais on ne pouvait pas ouvrir un journal et tout ça. Et à un moment, on se disait, mais où est-ce qu'on peut aller quelque part sans entendre parler de Zemmour? Et je crois qu'il parle, vous savez, puis je ne sais plus qui... C'est Chirac qui disait, on lèche, on lâche, on lynche. Et donc, là, il va peut-être entrer dans cette... Dans cette période-là, ça va être très difficile parce qu'il devient un homme politique, il sort de son statut très confortable. Et puis il dit aussi beaucoup de sottises de temps en temps sur ses interprétations historiques qui font frémir les historiens et beaucoup de gens. Donc les ennuis commencent. Enfin, les ennuis commencent, disait Mitterrand.
Votre livre nous fait donc voyager dans les coulisses du pouvoir, mais il y a aussi un récit intime, Marion.
Absolument, vous consacrez le dernier chapitre de votre livre à Albin Chalandon, l'homme de votre vie, mort le 29 juillet 2020. C'est lui qui vous répétait cette phrase, « Tu le sais bien, le temps passe », dont vous avez fait un titre. Regardez ces images, elles datent d'août 68, les débuts de votre histoire, Catherine. Elle est alors ministre du Logement en vacances au camping.
En fin de matinée, le ministre de l'Équipement et du Logement était notre voisin au camping du Pylône, qui jouxte la station de la Brague.
Monsieur le ministre, quel est le but de votre visite sur la Côte d'Azur?
Eh bien, comme vous pouvez le voir, d'après ma tenue, il apparaît que je ne suis pas dans l'exercice de mes fonctions officielles. Je n'ai pas, effectivement pas une tenue très officielle. En réalité, je suis ici en vacances, de courtes vacances d'ailleurs, hélas. Mais j'en profite évidemment pour regarder les choses qui concernent mon département ministériel et notamment, puisque nous sommes sur la Côte d'Azur, les problèmes du tourisme.
Voilà, bel homme. Dans ses mémoires, Catherine, vous livrez un secret découvert dans un texte laissé par Albin Chalandon qui remonte à ses années de résistance. Je ne dévoilerai pas ici ce secret, mais c'est un secret qui l'a hanté tout au long de sa vie. Je me souviens que vous m'avez dit un jour, chez les hommes politiques, il y a ceux qui ont fait la guerre et puis il y a les autres. Une épaisseur qui fait la différence pour vous,
oui,
dans tous ces portraits.
Oui, avoir fait la guerre, c'est avoir connu la peur, la peur de mourir, l'obligation de défendre son pays, un engagement dans la jeunesse, des années où on n'a pas eu de jeunesse, voyez, et puis la peur d'être pris par la Gestapo, d'être obligé de faire des choses... Et voilà, de tuer les ennemis, quoi. Et quelquefois, ceux qui avaient trahi.
Ah oui.
Donc c'était des lourdes charges pour un jeune qu'aujourd'hui les jeunes générations ne peuvent pas imaginer. Vous savez, à cette époque-là, des jeunes qui se réunissaient à 11h du soir, on frappait à leur porte, c'était la Gestapo. Aujourd'hui, les jeunes, on frappe à 11h du soir, c'est pizza à eux, vous voyez. Donc, non, mais c'est vrai, c'est pas le, c'est un autre qui donne une autre dimension. Et c'est vrai, et jusqu'à Jacques Chirac, vous voyez, il y avait ceux qui avaient fait la guerre d'Algérie, qui avaient, voilà, et puis... mais tant mieux, tant mieux.
Oui, oui, tant mieux.
Mais c'est des,
ce sont des présidents qui ont toujours connu des périodes de paix, en tout cas sur le territoire français, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron. Tu le sais bien, le temps passe, souvenir, souvenir, c'est le tome 2. C'est passionnant. C'est à votre image, intelligent et drôle, Catherine Ney. Merci d'être venue, vous restez avec nous. C'est le 5 sur 5 de Mathieu Béliard, qui est intelligent et drôle aussi.
Ah oui, je le connais bien, je suis d'accord.
Mais c'est vrai. Mathieu, bonsoir. Ouais.
Bonsoir, Babette, bonsoir à toutes et à tous.
En pleine cinquième vague en France, un nouveau variant affole la planète.
B.1.1.5.2.9. Alors même si partout on l'appelle aujourd'hui d'abord variant sud-africain, l'Afrique du Sud a annoncé sa présence hier. Et on l'a appris il y a quelques minutes, l'OMS le classe finalement comme préoccupant et le baptise Omicron. Vous avez révisé votre alphabet grec. Omicron, c'est le petit O, c'est par rapport à Oméga, ça précède Pi. J'arrête là sur l'alphabet grec. Un variant donc du SARS-CoV-2 qui contient beaucoup de mutations et qui se propage très rapidement.
Ce que nous savons, ce que nous disent les scientifiques, c'est que ce variant est porteur d'un nombre important de mutations et que l'une de ces mutations lui donne comme spécificité d'être beaucoup plus contagieux que le variant Delta.
On vient d'apprendre qu'il y a eu un cas de ce variant en Belgique. On peut envisager une fermeture de la frontière franco-belge ?
Écoutez, moi, vous m'apprenez cette information. J'étais en déplacement ici au marché de Noël de La Défense. Ce que je veux redire, c'est qu'on a toujours pris les mesures qui s'imposaient au moment où elles s'imposaient.
Parce que le gouvernement a annoncé ce matin la suspension des vols en provenance d'Afrique australe, mais donc un cas déjà identifié en Belgique, vous venez de l'entendre, une trentaine dans le monde. Cet après-midi, j'ai contacté le professeur Yves Kopiters de l'Université libre de Belgique, de Bruxelles, pardon. Qu'est-ce qu'on craint à présent? Qu'est-ce qu'on doit surveiller?
On ne connaît pas quel est l'impact de ce variant par rapport au variant Delta qui circule actuellement. Est-ce que ce variant a, je dirais, les propriétés pour prendre le dessus sur les contaminations? Ça, bien sûr, on n'en sait rien. Et ce qui est important, c'est de prendre des mesures à l'échelle internationale, que ce soit la surveillance des frontières, que ce soit éventuellement la limitation des voyages aériens par rapport à ces types de destinations. Si les contaminations augmentent à l'échelle mondiale, on risque toujours d'avoir ce type de mutants et l'arrivée, bien sûr, de ce type de souche dans des populations bien vaccinées comme la population européenne.
Aujourd'hui, la bourse de Paris, c'est un signe d'inquiétude. Le CAC 40 perdait 4,75% à la clôture.
Sur France 2, hier soir, 6 témoignages de femmes qui accusent Nicolas Hulot.
Et d'abord, l'info de cet après-midi, le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle pour des faits susceptibles d'avoir été commis à Paris à l'égard d'une victime mineure. L'une des témoins d'envoyé spécial avait 16 ans au moment des faits présumés. L'enquête, 4 ans de travail autour de l'ancien ministre, ancien animateur star de TF1. Vous receviez Élise Lucet et la réalisatrice de cette enquête hier soir, ici même. Mercredi, Nicolas Hulot se défendait avant même que quiconque n'ait pu voir ces témoignages. En voici cette fois quelques extraits.
C'est la fin de la réunion, je me lève pour le saluer et lui, se penchant par-dessus le bureau, il m'embrasse alors à pleine bouche. On n'a pas de promiscuité du tout pendant cette réunion. Il me saute dessus comme si j'étais à sa disposition, que c'était un pouvoir. Je pense que la baffe serait partie si j'avais pas eu ce rapport de subordination, si j'avais pas eu besoin de ce travail.
Il me dit enchanté, il me dit on va aller prendre un petit déjeuner ensemble. Je suis ultra intimidée, c'est quand même la première personne public que je vois d'aussi près. Et il me propose de me déposer une bouche de métro, quoi. Il s'arrête donc après sur un parking. Il avait une main qui prenait ma main et qui était sur son sexe. Et avec l'autre main, il voulait que je l'embrasse, que je lui embrasse le sexe. Et il me force à lui faire une fellation.
Et il me dit, si tu veux, je peux t'aider à avoir un boulot à TF1. Je dis, non, merci. Je décale la main. Et il insiste. Et il se jette sur moi, il essaie de m'embrasser, il me touche les seins, l'entrejambe. Je l'ai repoussé, je l'ai frappé au visage. Et je crois que j'ai clairement exprimé que je ne souhaitais pas avoir une relation sexuelle avec ce monsieur.
Nicolas Hulot annonçant son retrait de la vie publique mercredi, c'est son avocat qui s'indignait ce matin des méthodes des journalistes, insistant sur le fait que les faits que dément son client seraient de toute façon prescrits.
Tout a été dans la duplicité. Je vais vous dire, j'ai demandé la date de la diffusion de l'émission. On a refusé de me la donner. On avance masqué dissimulés. Et au bout du compte, nous sommes terrifiés, mais enfin, où sommes-nous de voir que Nicolas Hulot a été enregistré à son insu et que, alors qu'il a dit qu'il ne voulait pas venir sur le plateau, on le fait venir quand même, de force, en diffusant Urbi et Orbi, une discussion privée qu'il a eue avec les journalistes. Mais où sommes-nous ?
Maître Jakubowicz, qui fait référence ici à une séquence à la fin d'Envoyé spécial où Élise Lucet tente de convaincre Nicolas Hulot de venir s'expliquer.
Je n'ai jamais eu de relation ambiguë. Enfin, je veux dire, j'ai des histoires sans lendemain comme tout le monde, mais j'ai même pas envie de me défendre. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse plus, quoi. Ça m'intéresse. C'est pas une question de reconnaître. C'est que j'ai même plus la force. J'ai pas envie de me défendre. De toute façon, la parole des gens mis en cause aujourd'hui, elle est de fait dénaturée et suspecte.
Encore une fois, ce ne sont que des extraits. On sait aussi que dans ces cas-là, les détails comptent. On a monté aujourd'hui, Envoyé spécial est à voir en replay en entier sur France.tv.
Le ton monte entre Paris et Londres.
Oui, sur la question des migrants d'abord. Deux jours après la mort de 27 réfugiés au large de Calais, jusqu'à présent, la France et l'Angleterre semblaient mettre leurs désaccords de côté pour essayer de trouver une solution. Jusqu'à ce message de Boris Johnson hier soir, une lettre adressée au président français, Dear Emmanuel, vous pouvez le lire, ça c'est manuscrit au début, lettre tweetée hier soir dans laquelle le premier ministre britannique demande à la France de reprendre les migrants arrivant en Grande-Bretagne. Ce matin, Emmanuel Macron a eu du mal à cacher son agacement.
Je suis incroyable. Surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettre qu'on rend publique. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons, allons.
Autre point de tension entre les deux pays, la question de la pêche qui n'est toujours pas résolue.
Et les marins qui n'ont toujours pas de licence pour pêcher dans les eaux britanniques voulaient faire entendre leur colère aujourd'hui. Sur le littoral normand ce matin, Saint-Malo-Ouistreham, à Calais, encore Calais, à la mi-journée, des blocages de ports, des barrages symboliques parfois, mais c'est une façon de marquer le coup pour eux. Iban Raïs et Anaïs Recouli étaient sur place.
Le but de cette sortie en mer, c'est de quoi ? C'est de montrer les crocs, de montrer qu'on est là, qu'on lâchera rien ?
Montrer les crocs, montrer qu'on ne lâchera rien. Ça fait quand même 11 mois que les professionnels de la filière pêche attendent leur licence. Il y a vraiment de la mauvaise foi de la part du gouvernement britannique, puisque les Britanniques, les professionnels britanniques ont accès au marché européen depuis le 1er janvier l'année dernière, sans qu'on leur demande de justifier quoi que ce soit. Et c'est très bien. C'est les pêcheurs artisans qui sont le plus impactés. C'est eux qui ont été impactés par la Covid, puisque bien évidemment, avec les confinements, ils n'ont pas pu pratiquer les circuits courts. C'est eux qui sont impactés par la crise des migrants, par l'éolien en mer, par la supercherie industriels, il faut les laisser respirer, les laisser travailler surtout.
J'en ai parlé au téléphone personnellement avec Emmanuel Macron dimanche, qui dit qu'il ne lâchera rien et qui continue le combat.
L'accord de Brexit prévoit que seuls les marins qui pêchaient déjà dans les eaux britanniques peuvent continuer. Ce qui bloque, c'est le nombre de licences accordées par les Anglais. 150 bateaux seraient privés de pêche. Concrètement, cet autre pêcheur nous explique les conséquences de ce bras de fer franco-britannique sur son activité.
C'est une perte de 25 à 30% au long de l'année. Et on ne peut pas vivre comme ça. On peut pas se permettre de laisser passer ça.
Alors, qu'est-ce que vous ne pouvez pas pêcher en ce moment, du coup, depuis 11 mois ?
Donc, en ce moment, par exemple, c'est l'encorné. L'encorné, c'est le 3/4 de notre année. Et il est souvent ciblé du côté anglais. Donc, on ne peut pas y aller. Et on essaye de trouver autre chose en main, mais il n'y a pas grand-chose.
La mobilisation continuait un peu plus tard, un peu plus loin, avec des blocages des accès au tunnel sous la Manche.
Moi, j'étais en mer pendant 40 ans, j'ai toujours pêché dans les eaux anglaises et on me dit aujourd'hui que j'ai pas le droit d'avoir de licence. Donc on est prêt à tout. On n'a plus rien à perdre.
Vous avez 20 ans, est-ce que vous allez continuer la mobilisation si ça, voilà, si ça perdure ?
Ah bah oui, il faut. Moi, j'étais au lycée maritime, j'ai passé des bruits de patron, tout ça, pour prendre la relève de mon grand-père. S'il n'y a rien qui suit, c'est mort.
On sent vraiment de la colère, là.
J'ai encore besoin de travailler, moi.
Vous êtes pêcheur depuis combien de temps ?
Ça fait 6 ans. J'ai 26 ans, donc j'en ai encore besoin, pendant des années.
Non, mais tu vois,
le gouvernement britannique a réagi rapidement, aujourd'hui, en joignant la France à s'assurer que des actes illégaux ne sont pas commis et que les échanges commerciaux ne sont pas affectés. Écoutez la réaction, l'incompréhension de ce conducteur routier irlandais.
Ça m'énerve parce que moi, je ne suis pas de pêcheur, ni politicien, ni... Et ça... Moi, j'ai un collègue qui attend pour charger le ferraille pour le business à Dunkerque. Et eux, ils bloquent le port anglais, pas de problème, ils bloquent le pêcheur. Mais les routiers, nous avons notre boulot à faire, nous n'êtes pour rien. Et pour moi, le pêcheur français, il n'avait aucun droit de pêche hors des eaux françaises. Tu comprends pas le problème.
C'est un accord au niveau européen, donc ils ont le droit.
Oui, avant, il y a un accord européen avec le Britannique. Mais maintenant, le Britannique, c'est pas d'Européen.
Vers 16-17h, les véhicules qui bloquaient les poids lourds sont partis, comme prévu.
Après le drame épouvantable de ces derniers jours, la mort de 27 réfugiés, terme migrant pose question, terme, la mort de 27 réfugiés dans la Manche, on pourrait attendre de, des dirigeants qui fassent autre chose que de la petite politique et se comportent en homme d'État. Aller diffuser par tweet une proposition aussi farfelue que l'a fait Boris Johnson, enfin, c'est pas sérieux. C'est pas seulement insultant pour la France, c'est aussi insultant pour ce qui s'est passé là, sous nos yeux, il y a quelques jours. Il y a des questions, notamment, y compris dans le camp conservateur, où on le voit dans la presse à Londres, sur la capacité à Boris Johnson à s'élever un peu au-dessus de, et de sa façon de faire le clown et de faire diversion sur tous les sujets.
Et vous rappelez, Catherine Ney, que l'Allemagne accueille 400 000 migrants.
Non, c'est, elle aurait besoin de 400 000 personnes pour pallier au fait que c'est une population qui vieillit, que l'année prochaine, il y a 150 000 personnes qui partent à la retraite, qu'elles pourront... Il y aura des remplacements, mais il en manquera 50 000. Donc, c'est un pays qui a besoin de l'immigration. Et donc, vous voyez, c'est un cas de figure très différent de la France, l'Allemagne. Et la plupart, vous voyez, notre correspondante à Berlin dit que, par exemple, la personne qui vient travailler chez elle, une femme de ménage, est une Polonaise qui se lève à 4 heures du matin, qui vient travailler à Berlin, comme les aides-soignantes, qui viennent de Pologne et qui repartent le soir parce que d'abord, elles sont mieux payées en Pologne. Et donc, vous voyez, chaque pays a des contraintes différentes.
On part pour le Vatican à présent, Mathieu. Oui.
Emmanuel Macron a profité de sa visite à Rome et de la signature d'un traité avec l'Italie pour rencontrer le pape. Le président devrait parler au souverain pontife du rapport Sauvé sur la pédophilie dans l'Église. Il devait. La crise migratoire aussi figurait au programme des échanges. On va y revenir, cette rencontre entre le pape et Emmanuel Macron, avec Bertrand Chameroy dans moins d'une heure. Hier, le pape François a reçu une lettre en provenance de France. La démission de Mgr Michel Aupetit. Alors nous étions parmi les premiers à vous parler de cette enquête du Point qui révélait que l'archevêque de Paris a entretenu une relation amoureuse et charnelle avec une femme. À 70 ans, Mgr Aupetit a remis sa charge dans les mains du Saint-Père parce que c'est lui qui la lui a donnée. C'est comme ça qu'on dit démission. Le pape est... Seul le pape nomme les évêques, c'est aussi lui qui a le pouvoir de leur retirer cette charge.
Merci cher Mathieu. On parle maintenant d'une émission qui a 20 ans, une longévité, un succès jamais démenti, avec jusqu'à 2,5 millions de téléspectateurs fidèles, un en particulier.
Il y a 10 minutes sur ses dents l'air dans mon spectacle. Je ne peux pas faire un plus grand hommage, même si c'était de l'époque d'Yves Calvi et de ses chemises, mais j'aime Caroline Roux, j'aime ses dents l'air. Pour cette raison, enfin des gens qui ont le temps et qui récitent pas un catéchisme. Merci beaucoup.
Bonsoir Caroline Roux.
Bonsoir.
Chères voisines.
Tous les voisins.
Oui, on est voisins. Oui. Voisins, voisines. En fait, il suffit de quelques mètres seulement, quelques secondes pour passer d'un plateau, du plateau de C'est dans l'air au plateau de C'est à vous. Fabrice Lucchini, qui regarde encore tous les jours l'émission et qui vous envoie encore des SMS. Comme après une interview avec Michel Sapin, c'est comme ça que ça a démarré.
C'est comme ça que ça a démarré, c'est vrai qu'il avait bien aimé l'interview avec Michel Sapin. Et je suis tellement fière qu'il regarde C'est dans l'air. Et parfois, quand je lance l'émission, je pense à lui, parce qu'il me fait des remarques, mais toujours très juste. Très juste. Il a vraiment un très bon regard sur notre
bon
métier. Et il m'a appris à gérer les silences. On déteste ça, les silences à la télévision. Il me dit, arrête de parler. Laisse respirer la phrase. Quand il y a quelqu'un en face de toi qui dit quelque chose de brillant, laisse ces petites secondes, n'aie pas peur. Et donc, je l'adore. Et voilà, c'est un honneur qu'il rende hommage à cette émission.
C'est une sacrée fée qui se pense, franchement, qui se pense sur le verso de C'est à vous. Merci. Merci beaucoup, chère Catherine. À très bientôt, tu le sais bien, le temps passe. Souvenir, souvenir, tome 2, c'est chez Bouquin.
Bouquin.
Édition. Tout de suite, Caroline Roux est notre invitée spéciale pour fêter les 20 ans de C'est à vous avec quelques-uns de ses
experts.
C'est
dans l'air.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
C'est dans l'air.
Oh mince, c'est dans l'air. C'est dans l'air.
C'est compliqué.
À tout de suite, avec les experts chouchous. Oh.